Isabel Loné és professora al Departament de Dansa de la Universitat de París 8 en Història i Estètica de la Dansa Contemporània i és autora, entre d'altres textos, vaig fent la traducció, a la recerca de la dansa moderna, entretindre, a propòs, el tema és, la qüestió és la dansa contemporània. I en quant a la seva tasca com a ensenyant, ella ha ensenyat també a l'escola del Centre Nacional de Dansa Contemporània d'Angers, i ha col·laborat en diversos projectes amb artistes, amb ballarins, en l'àmbit de la dansa contemporània, com per exemple Mathilde Monnier, Latifa Labassi, Loïc Tousset o Boris Chermatz. A l'actualitat ella ve també de dirigir un màster en dansa contemporània al Centre Nacional de Dansa de Montpellier. És un primer màster que s'ha fet també a nivell internacional i on els estudiants han estat treballant també en diferents propostes artístiques, entre elles una reflexió sobre la dansa de la Lecture on Nothing de John Cage també. I em sembla que és tot. Je sais pas si es prête déjà, Isabel.
Oui,
alors on te laisse la parole.
Bien, merci Carmen pour ce travail, pour tous. Sur danse et décroissance, c'était donc je vais vous parler en français. Et il y a un petit résumé en anglais de mon intervention en deux parties. Une partie un peu générale, assez rapide, et dans une perspective peut-être historique, et une partie qui traitera d'une étude de cas pour essayer d'être au milieu de la question à partir d'un exemple qui est celui d'une chorégraphe dont j'ai suivi le travail depuis de longues années, qui s'appelle Lia Rodriguez, qui travaille à Rio de Janeiro, au Brésil, qui a installé un centre d'art au milieu d'une favela. C'est un immense bidonville de 140 000 habitants. Et ça me semblait intéressant de se poser la question de l'art et des croissances dans le contexte d'une grande pauvreté. Est-ce que cette question est pertinente ou pas? Et je pense qu'elle est pertinente à condition peut-être de penser la décroissance du côté d'un équilibre nécessaire entre beaucoup d'éléments, en fait. Donc j'irai vraiment, je crois, dans le sens qu'a proposé notre collègue géographe ce matin. Et puis ensuite Roberto et différentes interventions, peut-être ça va se croiser. Donc j'avais beaucoup de réticence à penser les rapports entre art ou danse contemporaine et décroissance au départ, parce que la décroissance me semblait être d'abord une question pour les spécialistes de l'économie. Et comme je ne suis pas du tout économiste et que je n'ai pas eu envie de lire de l'économie ou pas eu le temps de le faire, du coup je me sentais très loin de la question. Mais en vous écoutant, je me dis, et je rejoins Costas quand il a dit la possibilité de parler de décroissance nous permet un peu de mettre, en français on dit, les pieds dans le plat, c'est-à-dire d'aller au cœur des questions économiques et politiques. Et puis j'ai envie de dire aussi que du point de vue de la danse, Le mot décroissance, pour moi, a un écho directement physique, directement somatique. Et je pense là à de nombreux projets aujourd'hui qui travaillent sur un corps décroissant. Alors, de manière, ces dernières semaines, par exemple, j'ai rencontré une artiste qui s'appelle Catherine Contour et qui travaille à cultiver l'art du repos. Donc, elle a abandonné la scène, elle a abandonné la question du marché de l'art, du spectacle, pour cultiver l'art du repos et inviter les gens qui l'invitent. Donc, ça peut être des directeurs de centres d'art, mais ça peut être aussi des responsables d'un hôpital, ça peut être aussi des responsables d'une crèche. Donc, à pratiquer des siestes. Donc, elle développe une pratique de la sieste, des techniques de sieste très particulières. Voilà, en tout cas, je parlais de danse et décroissance, je pensais à se cultiver l'art du repos, pratique de la sieste. Et puis aussi, un autre exemple qui m'est venu à l'idée, c'est l'exemple d'un chorégraphe qui s'appelle Thierry Nyong, qui a travaillé dans 7 années durant, donc on est sur une longue durée, avec des retraités à Marseille, dans un quartier populaire de Marseille. Et il a travaillé avec eux dans le cadre d'un atelier. Progressivement, ces personnes se sont intéressées à l'histoire de la danse. Et progressivement, elles se sont attardées sur une œuvre que vous connaissez qui s'appelle Le Sacre du Printemps de Nijinsky. Et ces personnes ont décidé de travailler, de faire un sacre du printemps pour elles. Et elles ont fini par faire un spectacle. Mais ça, après 7 années de travail ensemble, qui est passé au Festival d'Avignon, au Théâtre de la Ville à Paris, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a là une communauté de personnes âgées dont le but, c'est de marcher et courir ensemble pendant le temps de la musique du Sacre du Printemps, c'est-à-dire 32 minutes à peu près, et d'organiser une solidarité interne pour tenir la promesse qu'elles s'en sont faites de courir et de reprendre sur elles-mêmes un pouvoir d'agir quand l'ensemble de la société les a mis de côté. Donc l'idée de ces corps que l'on met de côté, qui sont en décroissance, qui reprennent un pouvoir d'agir, me semblait aussi intéressante dans le cadre de danse et décroissance. Bref, ça c'était une sorte de petite introduction, l'écho de ce que produisait danse et décroissance pour moi, tout de suite. Alors, dans le cadre de l'histoire de la danse contemporaine, on pourrait dire qu'il y a une tradition d'un geste antispectaculaire, c'est-à-dire peut-être un geste décroissant, par opposition à une esthétique du geste classique qui est un corps qui va toujours vers le haut, qui est un corps glorieux, un corps puissant, un corps qui prend l'espace, un corps qui est en conquête de territoire dans le cadre de l'esthétique du ballet. Et face à ça, d'une certaine manière, les modernes et puis ensuite les dits contemporains ont tenté donc d'explorer leur propre médium, qui serait le geste, pour, j'ai envie de dire, essayer de faire beaucoup avec le peu, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est Isadora Duncan, c'est Rudolf Laban, en Allemagne dans les années 20 et puis dans les années 60, des gens qui ont travaillé autour d'Anna Alprin, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, ou au Japon dans les années 60, dans le cadre d'un courant qu'on a appelé le buto. L'idée de ces danseurs, d'une certaine manière, c'était, si je vais très très vite, c'était effectivement de faire avec le peu, de faire aussi souvent en plein air, de faire avec un geste qui accepte autant l'inspiration que l'expiration, qui développe aussi un rapport avec le sol très fort, parfois avec le sous-sol, qui développe un corps qui accepte de s'allonger. Donc il y a tout un travail d'un corps qui commence au sol, d'un espace, disons, proche, qui n'est pas forcément un espace de repli sur soi, en tout cas qui va tenter d'allier, on pourrait dire, croissance et décroissance. Mais ça, je le dis au niveau physique, au niveau kinesthésique, d'un certain sens du mouvement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chez ces artistes-là, disons des avant-gardes historiques, l'enjeu était toujours, était à la fois esthétique, mais directement politique. C'est-à-dire que ces artistes étaient très tôt et dès le début, à peine ont-ils commencé à faire de l'art, qu'ils ont tout de suite enseigné, qu'ils ont tout de suite théorisé, qu'ils ont d'une certaine manière tout de suite envisagé une perspective révolutionnaire ou une perspective contestatrice à partir du petit mouvement, à partir de leur propre mouvement, c'est-à-dire en gros changer le monde en commençant par la qualité de son propre mouvement. C'est-à-dire comment je regarde l'autre, comment je pèse au sol, comment je m'oriente, comment je prends l'espace, comment je laisse la parole, comment je partage mon geste avec celui d'autrui. Donc, se poser d'emblée à eux pour qui ils travaillent, pour qui on danse, dans quel lieu on danse, quelle est l'économie du travail de compagnie, etc. Donc, d'emblée étaient prises des questions hors champ de l'œuvre d'art elle-même. En travaillant en réfléchissant un peu à l'exemple de Lia Rodriguez à Rio de Janeiro, j'étais presque obligée de sortir de la dualité croissance-décroissance pour essayer de réfléchir à la qualité, en fait, à la qualité d'une vie, à la qualité de croissance d'un organisme artistique et social. Qui amenait à ne pas opposer l'art et la culture, c'est-à-dire il y a une tradition d'opposition, l'art c'est ce qui résiste à la culture, là on est à l'inverse, on est à comment art et culture peuvent se tendre l'un l'autre. Donc sortir du dualisme croissance-décroissance, sortir de l'opposition art et culture, sortir de l'opposition action sociale d'un côté, travail esthétique exigeant de l'autre, sortir de l'opposition d'un côté il y a de l'éthique et de l'autre de l'esthétique, pour envisager, et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, un espace de négociation permanente, c'est-à-dire les choses ne sont jamais résolues, elles sont toujours à reconquérir, au jour le jour, il n'y a jamais rien de donné. Donc un espace de négociation permanente et de porosité à tous les niveaux du travail, entre la sphère esthétique et la sphère sociale. Je descends un petit peu. Voilà. et où donc l'artiste envisage une conception, j'ai envie de dire, très élargie de son travail. Il n'est pas juste là pour faire une bonne pièce chorégraphique. Il est là pour tisser des liens avec tout un ensemble de personnes, tout un réseau d'espaces aussi, une temporalité spécifique. Et donc voilà ce que je voudrais montrer, c'est comment, dans cet exemple, on voit que toute croissance, tout acquis, tout développement ne doit pas se faire au détriment d'une autre dimension. Et ça se voit au niveau d'abord des structures économiques, au niveau des partenaires qui sont choisis, au niveau du lieu, de l'architecture et de la façon dont on l'habite, au niveau des circulations entre ce centre d'art et l'ensemble, au niveau de la structure de la compagnie, qui est là, comment les gens sont payés, quels sont les rapports entre les personnes, évidemment le rapport au public, et dans la création elle-même, quels sont les matériaux, quel est le geste qui est privilégié, etc. Donc avant de vous montrer quelques images, je voudrais rappeler un peu le contexte. Qui est que elle a choisi, après une carrière internationale, puisqu'elle a voyagé avec sa compagnie dans le monde entier, de s'installer dans sa ville, dans cette favela. Une favela, vous savez peut-être, il y a des nécessités, des besoins de ce qu'on appelle de première nécessité, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, la culture. Donc il y a un manque qu'il s'agit de combler petit à petit, et en même temps aussi un manque culturel. Et pourtant, dans une favela aujourd'hui, le taux d'obésité est énorme. Le Brésil, par exemple, est le troisième pays du monde en obésité, et notamment en obésité féminine. Il y a aussi une saturation de bruit énorme. La favela, c'est tout sauf silencieux. Il y a une saturation de gens, une saturation de conflits, beaucoup de trafic de drogue aussi, donc beaucoup d'argent qui circule dans une favela. Et avec, depuis le nouveau gouvernement de Lula, donc la gauche brésilienne, le Parti des travailleurs, il y a eu une explosion d'une petite classe moyenne à l'intérieur de la favela. Ce qu'on a appelé la classe C, c'est-à-dire il y a la classe A, une moyenne bourgeoisie, classe C, c'est-à-dire l'émergence d'une toute petite bourgeoisie à l'intérieur des favelas, mais qui a accès à la consommation sur un mode très, très sauvage, d'où les taux d'obésité énormes, d'où un certain nombre d'attitudes très addictives à l'intérieur. Donc, dans ce contexte-là, quelle économie et quelle esthétique pour un centre d'art contemporain ? La première chose, ce serait de comment envisager une éducation à la décroissance, même une esthétique de la décroissance, dans la perspective d'une croissance, dans le cadre de la favela, puisqu'il faut qu'il y ait, d'une certaine manière, accès au maximum possible de confort de vie pour tous. Alors, Lia Rodriguez, d'abord, s'est associée, elle n'a pas passé du temps à essayer d'avoir de l'argent du gouvernement. Donc il n'y a aucun fonds quasiment public. Elle s'est associée à une association qui s'appelle Redes. Redes en portugais, ça veut dire à la fois le réseau, mais aussi le filet et le hamac. Et c'est une association qui est dirigée par un collectif dont une sociologue qui est une des premières universitaires sorties de la favela, qui a fait une sociologie de la violence dans la favela. Donc une femme extraordinaire d'intelligence et d'engagement. Cette directrice de cette association a considéré comme nécessaire qu'il y ait un centre d'art dans la favela, un centre d'art contemporain. Donc il ne s'agissait pas de trouver des gros financements pour mettre un gros centre d'art contemporain au milieu de la favela au détriment d'autres choses. Il s'agissait de concevoir un centre d'art contemporain qui soit à l'échelle de la favela, c'est-à-dire qu'il ne crée pas une inégalité déjà à l'intérieur, et l'associer à une école qu'ils ont appelée une école libre de danse, l'associer à une cellule de réflexion théorique et sociale de gens qui réfléchissent à qu'est-ce que pourrait être une pratique artistique et une politique d'exposition dans ce centre-là. Et aussi donc de trouver des financements à la mesure du projet. Je vais vous montrer tout de suite le lieu, donc qui est ce. Ils ont trouvé dans la favela un grand hangar vide. Un grand hangar vide qui a été financé par des investissements de l'association, des investissements de la compagnie de Lia Rodriguez, qui récupère un peu d'argent de ses tournées mondiales, qu'elle investit directement dans le centre d'art, et puis aussi des aides privées. Notamment, vous savez, au Brésil, comme il y a très peu d'argent au ministère de la Culture et dans les villes, il y a un mécénat privé très important. Par exemple, Petrobras, la grande compagnie de pétrole brésilienne, donne beaucoup d'argent dans les arts, entre autres, ce qui les dégrève d'impôts. Donc, des aides privées. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Pardon, excusez-moi. Donc ce hangar est un hangar vide de 1500 m², qui est un grand espace, mais qui n'est pas démesuré non plus, et qui est lui-même partagé en deux. Attends. Excusez-moi, je vais vous mettre un peu plus. Au centre de l'image, c'est la directrice de cette association Redis.
Posture physique, c'est comme ça. Alors ça, c'est très nécessaire parce qu'ici, dans la favela, il n'y a pas de ces espaces énormes comme ça. Ici, j'ai dit à Chile, je ne sais pas, c'est pour penser. J'avoue que l'anglais français, não é um espaço para pensar. C'est important aussi d'avoir une utilisation de l'espace de votre façon.
Donc là, on entend le bruit qui est constant dans le lieu. Hein.
C'est vrai que la question de la violence a beaucoup compté. C'est pas facile, vous avez vu, mais quand il y a de vrais tirs, il donnait des cours là-bas. Les soirs, c'était pas du tout facile. Alors, quand on est là, je pense que les choses vont être mieux dans cet espace. On va pouvoir développer plus. Même, par exemple, toutes les discussions qu'on a de rester jusqu'à plus tard, d'échanger notre horaire. Il y a Amalia aussi, elle a très peur de rester les soirs. On respecte, parce que ce sont des situations difficiles. La piquée, la Clarisse, parfois elle a très peur, mais elle continue, elle a décidé de continuer.
Se a gente pensar um lugar como a Maré, mas você é um pensaria como Maré, onde historicamente as pessoas, além delas não terem acesso à arte, à cultura de uma maneira geral,
que estão ignorantes. São des gens qui ont pas eu accès à l'art et à la culture, de maneira geral.
É, você não tem nenhum, e também não tem nenhum espaço onde essas manifestações ao longo da vida, seja dentro da perspectiva de luta, de mudança, transformação.
Quer dizer, não é um país de espaço, então toda essa perspectiva de luta, de transformação.
É, esses artistas,
ser artista é a minha alegria.
Eles não têm também onde se colocar.
Eles não param para o seu prazer.
Quando se pensa num espaço como o nosso, essas pessoas, imediatamente, elas se veem nesse espaço também.
Quando estão criando espaço na Maré, esses artistas, e se voam nesse espaço, assim.
E para mim, já na companhia, dentro daquele lugar de construção que eu nasci, que eu fui criado, para mim é importante, porque também eu dou aula no projeto que a companhia tem, e eu falo com todo mundo que, incluindo os meus alunos, que é importante, que estou passando para eles, futuramente ele pode passar para outros. É, quero sim que esse espaço fique logo pronto, porque...
C'était juste là quelques éléments pour vous situer le contexte de ce lieu. Et je voudrais faire juste quelques commentaires d'abord sur le lieu. Donc ce hangar vide, là au début, vous l'avez vu, c'était vraiment le tout début, il n'était pas encore ouvert. Depuis, il a été divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a un espace plutôt pour la compagnie et le travail de création et un autre espace pour les compagnies qui se sont créées dans la favela. Et puis pour l'école. Donc, on partage un même espace, c'est poreux entre les deux, mais l'artiste a quand même obtenu, on pourrait dire, une possibilité de solitude, un vide. C'est un luxe à la favela d'avoir l'espace vide. Elle dit même que c'est d'une certaine manière la possibilité aussi de pouvoir regarder vers le haut. Et en même temps, ce vide n'est pas un vide isolé, fort clos, entièrement silencieux, dans le noir. Il n'y a pas de noir possible pour faire des spectacles. Donc, la question des éclairages se pose complètement différemment. C'est un lieu qui n'est jamais silencieux. Et donc, il s'agit de faire avec les bruits du monde, de faire avec cet espace constamment, d'être dans une négociation perpétuelle pour faire exister un espace artistique. Donc on n'est pas dans le cadre, j'ai envie de dire, du studio, de l'atelier comme espace protégé, impénétrable, une sorte de parc naturel protégé pour la création. Elia Rodriguez parle d'une volonté de socialiser le travail créatif. Il fait chaud. Il n'y aura pas de climatisation parce que ça n'a pas de sens dans cet espace-là aussi. Donc on fait avec la chaleur. On joue avec la chaleur et ça déclenche des états de corps particuliers, des corps qui vont aussi glisser les uns sur les autres beaucoup plus facilement, etc. Deuxième chose, deuxième commentaire, c'est le statut de cette compagnie. Cette compagnie, Léa Rodriguez a choisi de faire une compagnie permanente. C'est tellement cher en France, par exemple, mais aussi en Espagne, peut-être, d'avoir une compagnie permanente, que ça n'existe plus. Il n'y a quasiment plus de compagnie permanente en danse aujourd'hui, parce qu'il y a donc, on travaille au projet. Là, elle a fait le choix d'employer 11 danseurs, donc c'est une grosse compagnie, qu'elle paye avec un salaire qui n'est pas très élevé, mais qui n'est pas non plus le salaire minimum, donc qui permet juste à une personne de vivre, on va dire, des artistes, donc interprètes, qui vont aussi donner des cours aux gens, comme ce jeune artiste qui est là. Un mixte aussi social, c'est-à-dire il y a des danseurs qui sont issus de la favela, mais il y a aussi des danseurs qui viennent de la zone sud de Rio, c'est-à-dire de la bourgeoisie, voire de la très haute bourgeoisie. une mixité aussi raciale, et ça c'est très important, parce que dans le cadre de la danse contemporaine au Brésil, mais pas seulement, il y a très peu de Noirs dans les compagnies, alors que le pays, comme vous le savez, est un pays très métissé, mais en même temps, il y a quand même un racisme très fort au Brésil. Et de la même manière pour le public, l'enjeu étant de produire les créations aussi bien pour les gens de la favela que pour les gens de la zone sud qui ne viennent jamais dans une favela et qui viennent à cette occasion. Et aussi la question de la structure de la pièce, parce qu'évidemment tout ça a des répercussions directement esthétiques, qui est la question d'une pièce de groupe. Il s'agit toujours de pièces de groupe où du coup la possibilité du solo est complexe. C'est-à-dire comment penser un solo, une expression en solo, à l'intérieur de ce cadre-là. Donc il y a un visage qu'il y ait une production de solo, mais qui se fasse à l'intérieur aussi du groupe. C'est-à-dire on ne va pas privilégier ou faire croître des figures de solo si ça se fait au détriment d'une expression du groupe. Autre élément esthétique qui me semble important, elle a choisi, pour que les pièces soient possibles et des pièces importantes de groupe soient possibles, qu'il n'y ait jamais de costume, jamais de décor et pas de musique, ou très peu. Parce, donc tout l'enjeu, tout le travail, tout l'argent pour la création va s'investir dans le travail pour les gens, pour les danseurs et donc sur le mouvement. Donc évidemment, ça définit un certain cadre de travail esthétique. Alors, si elle avait la possibilité d'avoir des décors, d'avoir de la lumière très sophistiquée, etc., évidemment, elle le ferait. Quand elle vient en France et qu'elle rentre dans un centre chorégraphique, elle dit « qu'est-ce que j'aimerais avoir tout ça ?» Donc, elle est évidemment dans une idée de vouloir pouvoir, sauf que elle ne le ferait jamais si c'est au détriment de l'école, de Reds, de tout ce qui vient autour. Donc c'est pour ça, peut-être il y a une écologie là, un système entre tous les éléments qui doit garder un équilibre. Il ne s'agit pas de mettre tout l'argent dans la création, dans la musique, de payer, etc., etc. Donc là aussi, ça définit un certain type d'esthétique. Et donc, je vais vous montrer un autre extrait. C'est à 22h45. Il reste combien de temps, Carmen? D'accord. Donc je finis là-dessus pour vous montrer quelques éléments de la pièce. Ça, c'est une répétition d'une pièce qu'elle a faite en 2009 qui s'appelle Pororoca.
E a gente criou um problemão para poder se comportar bem dentro do problemão.
A dança, normalmente, ela cria des estruturas, des codes, para que a gente se comporte bem à l'intérieur de ça, para que o corpo puisse bien se comporter. E lá, eles font um peu l'inverse, eles criam um caos, eles criam um grande problema, e il faut qu'ils essayent de bien se comporter e de trouver une façon d'être dedans. Dans ces chaos. Il n'y a pas un ordre de départ, mais au contraire.
je suis en train de penser comme c'est important de montrer que la danse, c'est une profession. Être un danseur, être un artiste, c'est pas on peut faire de la danse depuis 4 ans, 2 ans, mais c'est complètement différent quand on donne les pas pour devenir professionnel.
Le mot en portugais, c'est le même mot. Bravo et œuvre.
Pororoca, en portugais, c'est pas en portugais, c'est le mot indien qui donc avant que les Portugais n'arrivent au Brésil, qui désigne le mélange des eaux quand les eaux de la rivière rencontrent les eaux de la mer. Donc, évidemment, c'est une métaphore de ce mélange et de ce mélange et de cet équilibre qui se trouve petit à petit, qui est toujours instable, qui se négocie sans cesse. Donc de ce chaos dont un des danseurs parle, qui est de essayer de trouver un équilibre dans le chaos, qui est vraiment qu'incarne la favela. Donc cette pièce est aussi une métaphore de l'état social, des tensions, etc. Et où on arrive quand même à vivre ensemble là-dedans et à créer un espace d'art là-dedans. Donc il y a tout un travail, je ne vais pas développer ici, sur le porter. Qu'est-ce que c'est que porter l'autre, le tirer, le pousser, sans jamais lui faire mal. C'est-à-dire arriver à le prendre, à le laisser tomber, à l'agripper. Bref, tout un travail sur le porter qui est très particulier à ce travail-là. Aussi un travail sur le glisser. Qu'est-ce que c'est que glisser à côté, se confronter, sans se tuer. Voilà, et je voudrais juste montrer la première de cette pièce-là, dans ce centre-là. Parce qu'il y a là quelque chose que je trouve très beau dans ce rapport que Roberto désignait tout à l'heure entre le monde de l'art et l'art du monde.
Tenho como objetivo maior estruturante na maré, que tenha como objetivo maior melhorar a qualidade de vida aqui das pessoas que moram aqui na maré, né? Um conjunto de 16 favelas. Com população de aproximadamente 140 mil pessoas.
Donc cette pièce a tourné au Festival d'automne à Paris en 2009, par exemple. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci à Isabelle pour cette belle exposition qui nous a apporté un peu aussi cette visite de l'Amérique, du Brésil, non, avec la question de la danse, que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas habituel dans notre université. Donava les gràcies per aquesta mirada sobre el treball coreogràfic al Brasil dins de les xaveles i el fet de que nosaltres aquí en aquesta universitat normalment doncs, no tenim ningú que pugui treballar sobre qüestions de dansa i s'agraeix moltíssim. I ara ja passem a l'últim, que sóc jo, em sembla.